On va fondre ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de basse, de guitare classique, de musicologie, de congélateur, de Bowie, de jonglerie et même de topless avec Mademoiselle K qui tourne son nouvel album en tournée dans toute la France, Angry Dirty Baby, premier album en anglais pour cette auteure, compositrice, interprète qui passe de la guitare à la basse. Lucille Comeau.
Elle est là avec ses musiciens, ils sont en trio et ils joueront deux titres en direct, Are You Swimming d'abord et puis Someday en fin d'émission.
19h30, le questionnaire autoportrait du lundi de Manu Farine. Ce soir, ce sera la dessinatrice de presse Louison. Et puis 19h35, plateau givré avec Fia Ménard qui tourne PPP, un spectacle emblématique de son rapport au jonglage et à son corps, Manu Farine.
PPP, un spectacle tout en transformation qui en 2008 enterrait la vie de garçon de Fia Ménard, ou comment faire du coming out un acte artistique et donc politique.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfez qui s'ouvre d'abord sur le son du jour.
I'd like to put on the record an apology for the unacceptable events that took place at our private bank in Switzerland, which is clearly an apology we'd like to make to you all, to our customers, our shareholders, to the public at large. It clearly was unacceptable, we very much regret, and it has damaged HSBC's reputation.
Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour, il est anglais, vous allez être viré.
Tout à fait, mais non, mais c'est sympathique d'avoir un son en anglais. Alors on entend le porte-parole de la banque HSBC en Angleterre, qui fait donc ses excuses à ses clients et au public. Alors vous le savez, rapidement, le journal Le Monde avait révélé une liste de clients de la banque qui cachaient leurs avoirs au fisc avec la complicité d'HSBC. Parmi eux, 7000 Britanniques qui n'ont pas été poursuivis. Le fisc anglais n'a récupéré qu'une partie minime de la somme cachée. Pourquoi je vous en parle?
Bonne question.
Car hier, Gregory Wise et Matt Thompson, qui sont quand même deux gros morceaux de comédiens, deux acteurs très importants en Angleterre qui sont en couple, ont déclaré eh bien, qu'ils refusaient de payer leurs impôts tant que les fraudeurs fiscaux n'auraient pas payé les leurs. J'aime payer activement mes impôts, dit Gregory Wise, parce que je suis profondément un putain de socialiste. Je ne paierai pas un sou de plus avant que ces salauds diaboliques aillent en prison. L'acteur prévient, Emma et moi, nous voulons lancer un mouvement. Ils ne peuvent pas envoyer tout le monde en prison, mais nous sommes prêts à aller en prison si nécessaire.
Et tout de suite, on passe au dossier du jour consacré à Eri De Luca. L'écrivain italien est comparu devant le tribunal de Milan le 28 janvier dernier pour incitation au sabotage. Opposant au projet de TGV Lyon-Turin, il avait déclaré qu'il était favorable au sabotage. Aujourd'hui, une pétition signée par des centaines d'artistes français et personnalités culturelles a été publiée dans Libération pour le soutenir.
Oui, alors il faut comprendre le contexte dans lequel cette affaire est née. Le projet de TGV Lyon-Turin, c'est un projet très ancien, très coûteux. Il est depuis des années dénoncé par les écologistes comme inutile. D'abord, et surtout, il représente un risque de causer une dispersion d'amiante très importante, notamment dans la région du Val de Suse. Eri De Luca, écrivain, fait partie des opposants au projet depuis très longtemps. Et dans un entretien accordé au Huffington Post le 1er septembre 2013, quand un journaliste lui a demandé si les actes de vandalisme contre cette ligne étaient licites, il avait répondu qu'ils étaient, je cite, nécessaires pour faire comprendre que le TGV est un chantier inutile et nocif. Le promoteur du projet, l'entreprise privée Lyon-Turin Ferroviaire, filiale du réseau ferré de France, a porté plainte pour incitation au sabotage. Eri De Luca refuse encore aujourd'hui de retirer ses propos. Écoutez-le.
Les mots ont été mis entre guillemets et sont le corps du crime. Donc je suis incriminé pour avoir incité à la commettre des crimes. C'est la première fois que ça arrive à un écrivain en Italie. Il n'y a pas à retirer, je ne peux pas censurer mon vocabulaire et le vocabulaire de la langue italienne qui admet, comme le vocabulaire des langues de tout le monde, parce que saboter, c'est un verbe international. À côté du dommage matériel, il y a tout le côté plus large. Une opposition parlementaire est capable, avec une obstruction, de saboter une loi. En plus, je suis quelqu'un qui a un sentiment noble envers le verbe saboter, parce que je l'ai pratiqué. En tant qu'ouvrier, pendant mes années de vie ouvrière et de lutte ouvrière, beaucoup de fois, m'est arrivé avec mes camarades de faire des grèves. Était exactement le sabotage de la production.
L'auteur a donc défendu devant les tribunaux son droit à utiliser ce terme et aujourd'hui un comité de soutien s'est constitué en France pour le défendre à son tour.
Oui, avec un comité composé d'éditeurs, de romanciers, de plusieurs personnalités politiques, dont quatre anciens ministres, parmi eux Aurélie Filippetti et Cécile Duflot. Et donc ils ont publié une pétition ce lundi 2 mars dans Libération. Ils demandent ni plus ni moins à, je cite, l'État français de donner l'ordre à la SNCF Réseau de France de faire retirer cette plainte. Parmi les signataires, il y a aussi le directeur de France Culture, Olivier Poivre d'Arvor, mais qui a signé en tant qu'écrivain. Écoutez-le.
J'ai signé parce que je trouve invraisemblable l'idée, possible, probable, si Eri De Luca était condamné, d'imaginer que ce très grand écrivain, aujourd'hui, dans un pays qui défend la liberté d'expression et qui a fait sortir des millions de gens dans la rue en janvier pour ceci, puisse laisser 5 années un écrivain de cette qualité en prison. Si Herri de Lucca avait saboté, s'il avait lui-même mis des pains de plastique sur la ligne du TGV, je n'aurais pas signé cette pétition. C'est vrai que quand on est contre quelque chose, et ligne ferroviaire, on a le droit de vous dire qu'il faut saboter ce projet. Voilà. Il n'y a pas d'acte répréhensible dans la parole, ou alors il va falloir arrêter de parler en France.
Car Herri de Lucca risque tout de même 5 ans de prison.
Oui, et alors il y a certains, notamment certaines voix en Italie, et notamment la justice italienne, et qui estiment qu'après tout, il s'agit bien d'une position politique, que le statut d'écrivain d'Herri de Lucca ne devrait pas rentrer en ligne de compte, qu'il ne doit pas être défendu en tant qu'écrivain. Pour lui, pourtant, il s'agit bien de sa responsabilité d'écrivain. Il a d'ailleurs publié un essai suite à ce procès, La parole contraire, qui vient de paraître chez Gallimard.
Un citoyen qui se bat à côté des causes que pour moi sont justes et nécessaires. En plus, je suis un écrivain. Ça veut dire que je suis quelqu'un qui a un petit droit d'écoute publique. Et alors, j'emploie mon petit droit d'écoute publique pour soutenir des luttes comme ça, comme la Val de Susa, ou comme Lampedusa, ou comme d'autres. Il y a une phrase que j'ai trouvée dans l'écriture de l'Ancien Testament qui dit qui ouvre ta bouche pour le muet. L'extension de mon activité littéraire est une extension pour donner de la parole à quelqu'un qui est mutilé de cette parole. Je pense que si un cordonnier veut faire de bonnes chaussures, il devrait se battre pour que tout le monde puisse avoir des bonnes chaussures aux pieds. L'effet secondaire de cette incrimination à moi est que la lutte de la Val de Susa ou les raisons de la Val de Susa sont un peu plus connues maintenant.
Voilà, et alors quel que soit le verdict, hein, prison ou pas, Herri de Lucca a d'ores et déjà prévenu qu'il ne ferait pas appel, car pour lui, ce n'est pas devant un tribunal qu'il doit défendre sa parole.
Peut-être quelques réactions de la part de nos invités. Fiaménard, Mademoiselle K, Fiaménard.
En fait, tout ça se télescope tellement entre toutes les actualités et tout ça, on se dit que finalement, c'est plus facile de défendre ce qui cache chez HSBC que de creuser un trou. Et peut-être, d'ailleurs, ça ne passe pas par la Suisse, ce fameux tunnel, là, parce que ce serait pratique pour aller déposer l'argent.
Mademoiselle K, une réaction à ce dossier ?
Bah, ouais, je trouve ça hallucinant quoi, que le mec soit condamné, effectivement. Voilà, j'ai suivi aussi les combats de José Bové. Voilà, il se trouve que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour vraiment défendre des projets écologiques, les gens, enfin là, il a pas saboté, il est pour, voilà, mais même j'ai l'impression vraiment que ceux qui défendent des projets écologiques forts, ils doivent en arriver à ça pour se faire entendre quoi. C'est pas la première fois que j'entends des combats comme ça où on les écoute pas et il y a clairement le pouvoir du profit, le profit prend le pas sur d'autres choses et c'est ça qui va pas quoi. Donc je trouve ça n'importe quoi cette condamnation, et bien sûr pour moi c'est le même débat que la liberté d'expression, il a le droit de dire ce qu'il veut, il a pas dit tuer des gens quoi.
Tout de suite, on passe au bref, Zoé.
Et l'on ouvre avec cette lourde condamnation en appel du tribunal de Caen contre l'ex-maire du Mont-Saint-Michel pour prise illégale d'intérêt. Éric Vanier, qui a dirigé la ville de 2008 à 2014, était également propriétaire de 20 à 30 commerces près du Mont-Saint-Michel. Il avait mis en place, quand il était maire, un système de navettes qui faisait qu'il captait l'intégralité des flux touristiques. Il a été condamné à 50 000 euros d'amende.
Le musée de Fontainebleau, victime d'un important cambriolage.
C'était dimanche, une quinzaine d'œuvres orientales provenant de Thaïlande et de Chine ont été dérobées dans le musée chinois situé au rez-de-chaussée. Il s'agit pour certaines des plus belles pièces du musée. Les malfaiteurs sont entrés par effraction et l'opération a duré top chrono 7 minutes. Il s'agit, selon la police, de professionnels extrêmement préparés.
Oui, bon diagnostic. Une nouvelle agence de presse africaine vient de naître.
African News Agency se veut être la nouvelle agence panafricaine avec un investissement initial de 20 millions de dollars. Des équipes basées pour le moment au Cap à Pretoria. ANA prévoit de s'étendre dans 15 pays d'Afrique d'ici juillet. Son lancement intervient alors que l'agence de presse sud-africaine SAPA, qui était une structure coopérative, a été mise en liquidation et fermera, elle, le 31 mars.
Et la dernière.
C'est une histoire de piano qui agace, ou comment la musique pour tous dans les gares, ce n'est pas si magique que cela. Alors, vous connaissez peut-être l'opération « À vous de jouer » de la SNCF, vous savez, il y a ces pianos dans les halls de gare où vous pouvez pianoter quand vous attendez votre train. Alors, il y en a un, notamment dans le hall de la gare de Lorient. Alors, On savait déjà que ça pouvait en agacer certains. C'est-à-dire que globalement, quand les gens jouent mal ou quand vous entendez 10 fois la lettre à Élise, ça peut commencer à vous agacer. Notamment donc, quand les gens ne sont pas très doués. On avait déjà eu des plaintes de certains employés de la SNCF. Mais alors là, il est arrivé une grande mésaventure à quelqu'un qui pourtant joue bien du piano. Il s'agit de la jazzwoman Sarah McCoy qui, vendredi soir, donc, avait joué d'ailleurs la veille à Lorient dans une ville, avait eu un succès phénoménal dans une salle. Donc là, elle attend son train et elle décide de jouer. C'est plutôt sympa. A priori, elle joue plutôt bien. Et là, en plus, son train a 2 heures de retard.
Ah bah oui,
donc elle est un petit peu énervée voilà, contre la SNCF.
Tout s'explique.
Elle
en fait.
Se met à jouer et là, un employé de la SNCF vient, lui tape sur les doigts, lui demande d'arrêter parce qu'elle empêche les gens de travailler. Et oui, voilà. Donc elle s'est fait tout simplement virer du piano. Visiblement, ce n'est pas la première fois. Le lendemain, en apprenant qui elle était, la SNCF a publié un communiqué en disant « Un TGV était bloqué avec des personnes dedans, la circulation était interrompue entre Lorient et Quimper. Nos équipes étaient un petit peu surmenées. » Enfin, voilà, ça ne la fait pas quand même.
Vous m'avez dit qu'il y avait d'autres incidents, j'ai pu lire, non ?
Non, parce que ça fait partie des choses. Il y avait déjà eu des petits micro-trottoirs pour montrer que globalement, en réalité, les gens qui attendent leur train sont assez contents. Les employés qui, eux, sont là de 8h à 20h, je pense, en ont marre. Et je pense qu'on pourrait les comprendre.
Merci Zoé. Eh bien, on se retrouve demain pour la suite de ce Journal de la Culture.
Avec plaisir, vous pouvez le podcaster.
Le podcaster
sur le site de France Culture. Évidemment, le réécouter pendant 1000 jours.
Le rendez-vous, la session.
Plateau Rodéo avec vous, Mademoiselle K, auteure, compositrice, chanteuse, guitariste et désormais bassiste sur certains titres. Vous sortez votre 4e album solo studio Hungry Dirty Baby dans une formation très simple, hein, guitare, basse, batterie, voix. 3 musiciens seulement pour un rock épuré entre chansons d'amour rageuses, interrogations sur l'identité, sur le genre et sur la violence des sentiments. On va vous écouter en direct dans quelques instants pour 2 titres. Mais d'abord une question sur ce premier album en anglais. Vous avez déclaré « J'ai fait un album en anglais parce que je n'ai rien à dire ». Comme mes héros, David Bowie, The Cure et Radiohead. C'est paradoxal parce que vous citez justement des artistes qui travaillent leur texte à fond. Pourquoi cette nouvelle provocation, Mademoiselle K?
Non, mais j'ai dit ça parce que c'était pour démonter moi-même avant qu'on le fasse. Non, parce que j'ai beaucoup dit, et je le pense toujours, qu'il y a plein de groupes qui chantent en anglais parce qu'ils n'ont rien à dire.
Mais pas David Bowie, par exemple.
Non, bien sûr que non. Non, mais c'était du... C'était du second degré, quoi. Enfin, c'était évident que c'était une manière de dire justement que j'avais toujours quelque chose à dire et que je le disais différemment cette fois-ci et que mes références, c'était pas des gens qui écrivaient de la merde, quoi. En l'occurrence, voilà.
Vous êtes fait virer, hein. C'est marqué d'ailleurs sur la pochette de l'album, à cause du choix de l'anglais. Mmh. Pour quelle raison d'ailleurs fallait-il passer par l'anglais cette fois-ci pour cet album ? Ça vous manquait depuis les 3 précédents ?
Non, mais c'est vraiment... c'est une mue, quoi. C'était hyper important. J'avais besoin de... J'aime beaucoup l'anglais. C'est une langue qui m'a toujours fait énormément fantasmer. J'ai grandi déjà en étant de parents immigrants polonais. Donc déjà en pratiquant 2 langues en grandissant, le polonais et le français. Et puis l'anglais, ça a été une... J'ai un oncle qui est passionné d'anglais. Donc dès toute petite, voilà... C'est une langue qui me fascinait, que je lisais beaucoup déjà. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, maintenant, il faut que tu fasses ton voyage à l'étranger. Je ne l'avais jamais fait. J'avais fait de la musicologie, j'avais enchaîné, j'avais fait de la musique tout le temps. Et je n'étais jamais partie faire mon Erasmus, mais quelques mois à l'étranger. Et donc là, je suis partie, quoi. Je me suis dit, il faut le
faire
maintenant.
Vous êtes partie où alors ?
Aux États-Unis ? Je suis partie à New York, plusieurs mois.
Vous avez rencontré qui à New York ?
Et j'ai rencontré personne. Enfin, j'ai rencontré plein de gens, j'ai rencontré plein de gens, mais je ne suis pas allée pour... Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas allée pour rencontrer un musicien en particulier. Je me suis inscrite dans une école de langue. Et comme 50 millions d'élèves qui venaient du monde entier pour la même chose, on était là pour apprendre l'anglais et pour se rencontrer, quoi, aussi. Et au début, j'y suis vraiment allée, vraiment que pour l'anglais. Et puis après, bon, je suis quand même revenue avec une basse et j'ai écrit aussi une chanson qui est Someday, qui est la dernière chanson de l'album. Et qui boucle la boucle, en fait, justement. Et après, je suis revenue, j'ai fait quelques compos et je suis repartie à Londres. Et là, j'ai travaillé l'accent. Et pendant quelques mois aussi. Et pour moi, c'est vraiment comme si j'avais travaillé des gammes. Comme ça m'a vraiment élargi l'oreille. Parce que j'ai découvert que dans l'anglais, il y avait 10 voyelles de plus qu'en français. Donc, il y a toute une prononciation qui est différente. Mais aussi, c'est vraiment comme apprendre des nouvelles notes dans une gamme, quoi. Donc, ça m'a vraiment... Moi, je pense vraiment que j'ai compris aussi d'où venait la pop anglaise. Pourquoi tous les groupes que j'aime tant, ils sont anglais. Pour moi, il y a vraiment un truc dans l'anglais, dans cette langue, dans le parler déjà, qui est déjà très chantant, très vocal, je trouve. Et ça m'a vraiment élargi, je pense, ma manière de chanter. Ça m'a ouvert d'autres horizons mélodiques. Donc l'anglais, c'était d'abord le désir profond, le désir, le fantasme de cette langue, et puis aussi le désir de changement. Je me voyais être Mademoiselle K, la fille qui fait du rock en français. Juste de le dire, déjà, ça me fatiguait, quoi. Je me fatiguais de moi-même. J'ai l'impression que c'était chiant comme la mort. Tout était chiant, et je voulais absolument changer ça et laisser ça sur le bord de la route et aller prendre une autre route, en fait.
Et le fait d'avoir travaillé en anglais, ça vous avait changé de sujet, par exemple? Vous avez abordé des choses que vous ne faisiez pas auparavant?
Je pense que c'est vraiment musicalement que ça m'a ouvert des choses. Après, ce que je dis, c'est toujours le même travail. On cherche des images, ou en tout cas, on a des images et puis on les met en forme. Et on construit la chanson et on construit son imaginaire. C'est juste qu'on le construit différemment, quoi. Et j'ai souvent dit, alors tu préfères l'anglais, le français? C'est comme demander à un beat, tu préfères un mec ou une fille? Il va te dire, j'aime les deux, mais c'est différent. C'est exactement la même chose.
La comparaison, Lucille?
Allez, super. On vous écoute. On vous écoute tout de suite, Mademoiselle K. Je vous laisse rejoindre vos musiciens. Vous êtes trois dans le studio ce soir, accompagnés par Peter Combard à la basse et par Colin Russell à la batterie. C'est à vous pour un premier titre. Le premier titre s'appelle Are You Swimming?
Suffocating, only child, only child. easy. So please tell me how I die there. Where are you living? Who are you seeing? I could be a boy, I could be a girl. Have you chosen? Choices are not easy.
Merci.
Mademoiselle K, en direct dans le studio 108, c'était Are You Swimming? Peter Combard est à la basse, Colin Russell à la batterie. Quelques dates de concert, le 5 mars à Rennes, le 12 à Bordeaux, le 27 à 29 La Garenne. Il faudra attendre le 28 juin pour les entendre à Paris. Mademoiselle K, vous êtes donc pour la première fois en trio, vous entendez là le trio, la base du rock, une forme pas facile, vous dites. En quoi pas facile?
Non, ça je pense c'était surtout il y a un an quand on a fait une pré-tournée. Pour annoncer justement aux gens, pour faire comme j'ai toujours fait, c'est-à-dire annoncer la suite par le concert. C'est ce que j'avais fait sur le premier album avant qu'il sorte. Et c'est toujours là que ça se passe, surtout un moment où les gens étaient sceptiques sur l'anglais, ils ne savaient pas trop. C'est important qu'ils viennent au concert et qu'ils sentent, ou qu'ils ne sentent pas, mais qu'ils comprennent ce qui se passe en vrai pour se dire « Ah ouais, en fait, c'est toujours quelqu'un qui interprète ses chansons et qui les vit, et c'est pas spécialement. » Donc c'était, et à ce moment-là, je me rappelle, on avait enregistré qu'une partie de l'album, et je savais qu'on enregistrait à trois, ça c'était sûr, mais en concert, il y a quelques synthés qu'on rajoute, tout ça sur l'album, et en concert, pour moi, il fallait qu'on joue à quatre, et c'est mon manager avec qui je commençais fraîchement à travailler qui m'a dit « Non, mais tu vas aller faire la tournée des clubs. » Et vous allez jouer à trois. Et ça m'a vachement paniqué parce que j'avais pas fait ça en fait depuis très longtemps, depuis avant mon premier album. Et la dernière fois que j'ai fait ça, j'étais avec une guitare acoustique, c'était de la chanson, c'était chiant. Donc et donc j'avais vachement peur. Je dis mais attends, on va jamais arriver et tout. Voilà, mais je pense que c'était encore une fois une peur liée à une habitude. On était quatre avant et là on était trois. Et finalement, je suis très contente qu'on l'ait fait à trois. Ça fait partie de la nouveauté de tout ce qui a été nouveau sur. De toute façon, ça a été un peu boule de neige. Hein. On commence un premier truc et puis après, ça a amené plein d'autres choses derrière.
Oui, parce qu'il y a eu donc l'anglais, c'était la première fois, mais aussi la basse, puisque c'est la première fois que vous jouez de la basse sur certains titres.
Oui.
Est-ce que ça a changé quelque chose dans la façon même de chanter ou d'être sur scène, Mademoiselle K?
Bah, c'est con, mais j'aime bien parce qu'il y a moins de cordes et elles sont plus grosses. Donc, en fait, il y a un truc physiquement qui est très agréable, quoi. C'est vraiment, c'est déjà, on le voit pas à la radio, mais je fais un mime, là, j'écarte les bras très larges. Et la basse, ouais, il y a un truc, j'ai l'impression, plus dans l'espace, plus large, quoi. Comme le son, il y a des fréquences plus graves, il y a un truc plus large dans le toucher. Voilà, et puis on est un peu le maître du groove avec le batteur, et ça, c'est très agréable aussi.
Je vous vois sourire à cette évocation, Fia Ménard. Peut-être un commentaire à ce que vous venez d'entendre ou...
Non, je trouve ça très juste parce qu'en plus je retrouve des mots qui me sont proches.
Vous pensez à quoi par exemple?
Le voir différemment, de vivre les choses. Et c'est vrai que je souriais par rapport à la basse parce que c'est vrai que d'un seul coup il y a une sorte d'arme. C'est une sorte d'arme, mais en effet, c'est une arme du son et du beat, quoi, vraiment. Et c'est vrai que la basse, pour ça, moi, je sais que ça, c'est vraiment le truc qui me fait kiffer, la basse, ouais. Si je jouais d'un instrument, certainement que j'adorerais pouvoir jouer de la basse, ouais.
Lucille.
Tous les jours, Mademoiselle K, on demande à nos invités de nous suggérer un son qu'ils voulaient entendre, et vous avez choisi ça. Identification de ce son, Mademoiselle K, est la raison pour laquelle vous l'avez choisi.
C'est la musique la plus belle au monde, quoi. Je sais pas, à chaque fois que j'entends ça, ça va très bien, et tout d'un coup, ça va aussi bien, mais ça m'amène, je sais pas, c'est d'une... Je sais pas comment vous expliquer, quoi. C'est tout, c'est... Je sais pas, c'est comme si une histoire d'amour venait de naître en deux secondes à l'intérieur de vous, en fait, cette chanson, voilà. C'est une espèce de nénuphar, tout d'un coup, qui s'ouvre et qui vous envahit. Je sais pas pourquoi, mais c'est magnifique. Voilà. Et c'est pas la seule œuvre de Ravel que je trouve magnifique. Je suis une grande fan de Ravel, de Gaspard de la Nuit aussi. Et ça, version orchestre, version piano, c'est très beau. J'adore aussi le concerto en sol, le concerto pour la main gauche. Voilà, je suis une fan de Ravel.
Vous avez suivi une formation musicologie à la Sorbonne. Quels étaient les genres, les époques que vous avez travaillé dans ce cadre-là, Mademoiselle K?
On fait toutes les époques.
Oui, mais vous, celle qui vous parlait plus particulièrement?
Moi, je suis très post-romantique. Je suis très romantique déjà, et en plus post-romantique, comme post-punk, post. J'aime bien les postes. Je pense que c'est ce que j'aimais. J'aime beaucoup aussi la musique baroque. J'aime beaucoup tout ce qui est dissonance. Donc j'étais une grande fan de justement. J'aimais beaucoup la musique de chambre, justement des trucs où il y a des formations très restreintes, quoi. Deux, trois instruments. Je me rappelle de des pièces pour viol de gambe et clavecin et vielle. Je trouvais ça incroyable. Voilà, juste trois instruments comme ça, très dépouillés. Les quatuors à cordes aussi. Mais en fait, par contre, vraiment la musique instrumentale.
Lucille ?
Sur la couverture de l'album, c'est une peinture réalisée à partir d'une photographie. Elle vous représente sur un fond délavé bleu, de face. Vous êtes torse nu, les bras croisés, mains sous les aisselles, avec une croix au-dessus de vous. Sur la pochette de votre premier album, vous étiez aussi torse nu, mais là, vous étiez de dos.
Oui.
Qu'est-ce que ce changement-là dit de votre évolution à vous, Mademoiselle K ?
Le premier mot, je ne sais pas, c'est « je m'assume ». Et pourtant, je n'ai pas l'impression de m'être... je me suis toujours assumée dans ce que je faisais, qui j'étais. Mais forcément, être de face, voilà, il y a toujours les bras croisés parce qu'il y a toujours cette petite part de pudeur en moi. Ça fait partie de moi. Et il y a le petit téton qui sort quand même, donc il y a toujours un truc qui déborde aussi.
Vous aimeriez jouer torse nu ?
Je l'ai fait. Ça y est, je l'ai enfin fait là, pour la Saint-Valentin. C'était un peu un prétexte à la con, mais... mais ouais, ça fait...
Et alors ?
Je l'ai fait.
Quelle
là.
Sensation ?
C'était samedi 14 février à Lille, je ne pouvais pas louper ça. Eh bien, c'était une super expérience. J'ai adoré. J'étais un peu dégoûtée parce que la peinture s'est vraiment barrée au bout de ça. Parce que
oui.
C'est important parce que sur cette tournée-là, il y a tout un concept où je suis toute peinte quand même. Voilà. Et j'ai un bandeau couleur chair, donc ça fait déjà comme si j'étais torse nu. Mais là, pour cette date-là, j'ai enlevé le bandeau. Mais j'étais vraiment toute peinte. Puis j'ai vraiment recouvert les seins et tout. Et puis, bon, avec la sueur et tout, au bout de cinq morceaux, à un moment, je me regardais. Je fais, là, t'es à poil. Bon, vas-y, de toute façon, faut y aller. Ça sert à rien de changer quoi que ce soit. Et c'était très... J'ai beaucoup aimé l'état dans... Enfin, voilà, c'est une expérience, quoi. C'est ce qui est intéressant, c'est l'état dans lequel ça vous met, l'état dans lequel ça met le public. Et je l'ai dit aux gens, c'est toujours sur le final que je partage les impressions avec les gens. Et je leur ai dit, t'as vu, tu regardes, tu regardes pas. Et les gens rigolaient parce que c'était exactement ça, quoi. C'est le premier concert où je suis arrivée, j'ai vu les gens regarder... J'étais là, j'ai jamais vu les gens s'ils peuvent me regarder un concert. Normalement, je les regarde et je m'adresse à eux et on se regarde. Et là, je les ai sentis, c'était très intéressant. Et puis, c'était très intéressant aussi la différence entre le regard des hommes et des femmes. Les mecs n'avaient pas de problème. Ils disaient, ouais, c'est super, mon ingé son, il a adoré et tout. Et les filles, bizarrement, étaient plus, ah ouais, c'était très drôle.
Ferménard, vous avez eu cette expérience aussi, vous comprenez ? Vous, du côté du jonglage, est-ce que les gens vous regardaient différemment, les hommes et les femmes ?
Mais ils continuent, d'ailleurs. Parce qu'ils se posent toujours les mêmes questions. Je crois que...
Torse nu aussi ?
Oui, que ce soit la nudité. Je pense que, bon, en plus, chez une personne transgenre ou transsexuelle, alors là, l'enjeu est encore plus... voilà, c'est qu'est-ce qui pourrait trahir ?
Et dans le jonglage, en plus.
Alors dans le jonglage, encore plus.
Encore plus, parce que c'est quelque chose auquel personne n'a travaillé auparavant.
Non, bien sûr. Bien sûr, mais c'est vrai que cette question-là persiste. Finalement, je dis souvent... On pourrait jouer presque à la loterie sur ce qu'il y a dans la culotte d'une transsexuelle. C'est-à-dire de savoir est-ce qu'elle est opérée, pas opérée. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est presque l'enjeu auquel on me pousse sans arrêt, de savoir finalement qu'est-ce qu'il y a.
Le rendez-vous.
Rendez-vous.
Extérieur.
Extérieur.
Mademoiselle K et Fiamena, on vous retrouve dans quelques instants, mais tout de suite, c'est le questionnaire autoportrait du lundi de Manu Farine, ce soir dans la série Les professionnels de la profession. Eh bien, c'est la dessinatrice de presse, Louison. Manu Farine.
Louison, 29 ans, dessinatrice de presse, donc avec un dessin qu'on retrouve notamment dans l'hebdomadaire Marianne depuis 2009. Et ici même, au matin de France Culture, Louison dessine en direct chaque vendredi. Et je l'ai rencontrée samedi matin chez elle à Paris.
Questionnaire dessin de presse, Louison, Manu Farine.
La bande dessinée de votre enfance ?
Tom Yana, je pense, du début à la fin, c'est quand même ce qu'on a fait de mieux. Et c'est ce qui m'a vraiment donné envie de faire ce métier, en plus. Je me rappelle des petits doigts un peu boudins, un peu saucisses. Enfin, c'était drôle, les couleurs étaient chouettes. Mais alors, c'est vraiment Tom Yana.
Le dessinateur de presse que vous associez à vos parents?
Razer. Je piquais des Razer quand j'étais petite. C'était déjà mort depuis quelques années. Je ne comprenais pas la moitié de ce que je lisais, mais je trouvais ça formidable. Il y a une liberté et une efficacité dans le trait qui est brillante, même si c'était des trucs archi libidineux. Et il y avait une gestion de la couleur et du récit aussi, du gag en fait, juste du gag.
Le dessinateur de presse qui a pu vous donner envie de faire ce métier?
Très honnêtement, c'est Plantu. J'avais 14-15 ans, j'étais en 3e et je voyais le dessin en Une du Monde. Et je me disais, waouh, ça a l'air chouette comme métier ça. Et puis il était en Une du Monde, donc je me disais, s'il est en Une du Monde, c'est que tout le monde regarde.
Premier dessin publié?
Dans Marianne, 1er août 2009. C'était Sarkozy, juste après son petit malaise vagal qu'il avait fait à l'Élysée. Et j'ai dessiné comme un enfant, hein, à la plage, les fesses dans le sable, avec son seau, sa pelle. Il y avait juste une petite bulle, on devinait venait de Carla, qui disait « Chouchou, ton Bob ». J'étais contente que ce soit ce premier dessin-là, parce que vraiment, j'étais fière de ma blagounette. Et j'étais contente que ce soit un Sarkozy dans Marianne.
Un professeur qui a pu être décisif pour vous?
J'étais très très ascolaire, moi, mais... J'avais un copain, un petit copain même, c'était très très grand, en terminale, qui dessinait beaucoup, lui. Et moi, je dessinais déjà, et en fait, comme il dessinait et que je voulais un peu comme ça être dans une sorte de connexion avec lui, je n'écrivais pas de cartes postales, je lui faisais des dessins. C'est là où j'ai commencé à créer des petits personnages, à travailler sur le motif des petits pois qui restaient depuis sans me quitter. Et mine de rien, même si nos relations ont été ce qu'elles ont été, je pense que ce garçon m'a permis de concrétiser ce qui était déjà présent en moi, mais... L'expression par le dessin.
Une définition possible du dessin de presse?
Forcément, la définition a pris un petit peu d'ampleur, mais j'ai vu dans le Charlie cette semaine, je crois, c'est Riz, dans son édito, qui écrit ça. Il a dit, faire un dessin de presse, c'est prendre un petit pas de côté sur l'information. Donc le dessin de presse, c'est vraiment voir la vie un tout petit peu sur le côté, comme ça.
Dernier dessin réalisé?
C'est sur ces histoires de fillettes qui servent de kamikazes forcées. Et j'ai dessiné donc une petite fille avec une ceinture d'explosifs, sauf que les explosifs sont des poupées. Et ce dessin est paru dans Marianne, donc samedi 28 février. Et je suis contente qu'ils aient pris celui-là parce que j'en ai proposé d'autres. C'est pour ça aussi que je fais du dessin de presse. C'est aussi pour réussir à faire d'une horreur absolue quelque chose d'un tout petit peu plus digéré. Alors c'est mon côté fille de psy, mais c'est la sublimation. C'est-à-dire faire de quelque chose comme ça un peu brut, quelque chose d'autre un peu plus travaillé.
Le changement ou l'évolution que vous attendez dans la pratique de votre métier?
J'aimerais, et je commence déjà à faire un tout petit peu plus, mais j'aimerais oser plus. Et c'est sûr que depuis la mort de Tinius, par exemple, parce que Tinius a été quelqu'un de très important pour moi, mais depuis sa mort, j'ai l'impression d'être un petit peu habitée par ce qu'il était et à oser un peu plus aussi les choses. Et dans les premiers jours, c'était particulièrement spectaculaire. Je me suis retrouvée à Radio France à dessiner une paire de couilles incroyables. Je voyais ma mère au premier rang qui dit « non, 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 si, 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 si ». Il y a un truc qui se libère un peu, mais je n'ai que 29 ans et donc ça va, j'ai encore le temps.
Le personnage de bande dessinée que vous auriez aimé rencontrer?
Agrippine. Agrippine, je pense qu'on pourrait bien se marier avec Agrippine.
Louison, merci.
Plateau givré avec vous, Fia Ménard, jongleuse, danseuse, performeuse, metteuse en scène, un parcours qui commence au début des années 90 avec déjà une vingtaine de spectacles. Et vous reprenez dès demain PPP à l'affiche du Théâtre Montfort en association avec le Théâtre de la Ville de Paris. Une pièce que vous aviez créée en 2008 dans laquelle vous manipulez de la glace sous la menace de balles de glace qui sont suspendues dans les cintres. PPP, ça signifie position parallèle au plancher. Qu'est-ce que ça voulait dire à l'époque pour vous?
Je pense que ça, c'était le côté publicitaire, en fait, du terme. Parce que la petite anecdote, en fait, c'est que PPP, c'était une suggestion, un jour, d'une discussion avec un professionnel qui me disait « Mais, Fia, il faut absolument que tu fasses quelque chose pour plaire au public. » Et ma première réponse avait été de lui dire « Pour faire la pute. » Et c'est resté. Finalement, j'ai dit « Voilà, je vais faire un spectacle qui s'appellera « Pour plaire au public, PPP. » Alors, c'est vrai qu'après, on a retiré « Pour plaire au public », qui aurait pu être « Pour faire la pute parfaite », mais de décider position parallèle au plancher, c'est-à-dire constater que quoi que je fasse, de toute façon, j'ai perdu d'avance et que je finirai par terre.
Manu.
Alors sur scène, un bloc de glace ou de neige, hein, on ne sait pas trop, à l'horizontale au sol, avec lequel vous allez dessiner par la suite au sol sur le plateau. Et puis il y a aussi comme un bloc vertical de glace, une sorte de siège, des congélateurs mobiles, éclairés de l'intérieur. Vous démarrez au sol, en mitouflé, commencez à manipuler lentement des petites balles de glace. Qu'est-ce que cette matière-là, c'est-à-dire les blocs de glace, petites balles ou plus grandes balles, vous permet de travailler? Pierre Ménard.
Déjà... La glace, en fait, c'est une matière formidable, c'était la matière de la transformation. C'est-à-dire, lorsque je décide d'abandonner les objets de jonglerie classique, en me disant, bon, j'en ai marre que vous regardiez les balles, surtout quand elles partent, et surtout quand je les loupe, mais de dire, si elles cassent, ce sera encore mieux. Donc la glace, c'était ce qu'il y avait de mieux. La deuxième chose, c'est que jongler avec de la glace, c'est la parfaite utopie, c'est parfaitement perdu d'avance, vous savez très bien que ça va fondre. Donc le jeu était une sorte de jeu de dire combien de temps je peux tenir. Alors c'est peut-être ça, c'était de dire cette matière si belle à la transformation, vous n'avez pas envie de la toucher, je la touche pour vous. Vous allez ne pas supporter l'endroit où se trouve la jongleuse, alors qu'habituellement la jongleuse, on est plutôt à se dire tiens, on la mettrait là pour combler entre deux striptease. Et donc voilà, c'était pour toutes ces raisons, la glace est un objet et une matière incontournable pour moi.
C'est une pièce aussi qui a accompagné votre transformation de Philippe Ménard en Fia Ménard. Vous dites « PPP, je l'ai vécu comme un coming out, j'ai arrêté alors de mentir ». Qu'est-ce que le mensonge avait produit sur vos spectacles avant ça, puisque vous avez commencé à la fin des années 90, Fia Ménard ?
À chercher à me justifier, sans arrêt. Et peut-être c'est la pire des choses qui puisse arriver pour un ou une artiste, d'essayer de se justifier. Donc quelque part, au moment où j'accepte la donnée auquel je ne peux échapper, c'est d'avoir tenté ou essayé d'être un homme, de dire voilà, j'arrête d'être travesti et enfin j'assume mon identité. C'est purement se sauver, c'est échapper finalement à un incontournable échec.
Quand vous créez cette pièce Fia Ménard en 2008, vous en étiez à une étape, j'imagine, moins importante de votre transformation. Qu'est-ce que ça a changé dans votre interprétation de la pièce que vous reprenez 6 ans, 7 ans après ?
Alors ça, c'est toujours très étonnant parce qu'en effet, lorsque vous écrivez une pièce qu'elle correspond à un coming out, vous êtes face à une question simple, c'est vous dire mais à quel moment elle n'est plus juste ? Alors peut-être aujourd'hui, la question est peut-être différente, c'est mais quand est-ce que je vais échapper à cette pièce ? Quand est-ce que, finalement, ma transformation sera finie ? Et est-ce qu'elle sera finie ? Alors aujourd'hui, c'est vrai que je m'aperçois que je suis toujours une femme en devenir. Je serai toujours à courir derrière la question de l'identité féminine et qu'est-ce que ça veut dire ? Donc dans cette pièce, finalement, entre le moment où j'ai démarré, où c'était le premier jour où je prenais mes hormones, donc la relation à un corps encore masculin, à la violence, à cette question d'une testostérone encore très présente, à se débarrasser, finalement, au fur et à mesure, d'accepter que le corps change. C'est aussi épouser des formes qu'on a voulues, mais en même temps, c'est se rendre compte de ce que veut dire un corps qui s'expose de plus en plus et dont on attend la limite, on attend la fin. À quelle fin ? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, 8 ans après, presque, ce qui est assez fantastique pour moi, c'est toujours de savoir est-ce que cette pièce est encore utile ? Est-elle encore forte ? Est-elle encore à sa place ? Et ça, je dirais que certainement, il n'y a que le spectateur qui peut le dire. Mais en même temps, moi, je peux vous dire que c'est une expérimentation des plus vives à chaque fois.
Cette pièce a tourné partout dans le monde, partout en France. Vous continuez à la tourner actuellement. Elle sera donc au Théâtre Montfort à Paris à partir de demain. Est-ce qu'il y a eu des réceptions très différentes selon les pays ? Est-ce qu'il y a des réceptions qui vous ont marqué, Fia Ménard ?
Oui, bien sûr, parce qu'il y a toujours des extrêmes de l'un à l'autre. Ce que je dirais, c'est qu'entre jouer au Japon, où on sent qu'on aborde des questions qui sont la relation et finalement la question de la sexualité, parce que d'un seul coup, ça pose cette question-là, c'est-à-dire la question d'un tabou, comment on met finalement la question de l'identité dans un registre qui n'est pas forcément le sien, notamment l'identité sexuelle, alors que c'est une identité de genre. Où là, on sent que c'est très, très cérébral. Et puis, d'un autre côté, je dirais presque l'opposé, l'Amérique du Sud, ou par exemple des souvenirs au Brésil, et l'espèce de grande compassion et de grande empathie, où on veut absolument vous sauver, vous prendre dans les bras et vous dire « on vous aime quand même ».
Mademoiselle K, peut-être des réactions à ce que vous entendez ?
Rien, c'est juste qu'on a tourné au Brésil il y a 2 ans, pendant un mois, et on est revenus tous complètement bisounours, quoi. On a trouvé que c'était un pays incroyable, les gens sont d'une générosité, et effectivement, on sent un amour très fort. Enfin, moi, je suis musicienne, je parle de mon ressenti en tant que musicienne, on sent déjà que c'est un pays profondément, qui aime profondément la musique. Mais ce qui m'a surtout beaucoup surpris, c'est de voir, on a joué dans... dans des grandes villes, mais aussi à un moment, on a joué à 50 km de São Paulo, dans une autre ville. Et je me rappelle avoir vu des couples de garçons avoir de 15 ans se promener main dans la main dans la rue. Et je les ai remarqués, quoi. Je me suis dit, putain, mais je vois pas ça à Paris. Ou alors, je sais qu'elle est, quand on part à l'étranger, il faut toujours faire attention parce qu'on regarde peut-être plus. Mais moi, par exemple, je marche beaucoup. Je passe mon temps encore ce matin. J'ai marché 2 heures pour rentrer chez moi dans Paris. Donc, je passe mon temps à regarder les choses, les gens. Et je me dis, si je le remarque, c'est que je le vois pas encore assez, ça, dans mon pays, quoi. Et donc, je suis vraiment revenue avec un truc en me disant, ouais, j'étais marquée par effectivement la tolérance, même si voilà, chaque pays a ses problèmes. Hein. Je dis pas que tout est un paradis, mais oui, en tout cas, une certaine tolérance vis-à-vis de toutes les sexualités en fait dans ce pays.
Féminard, comme à tous nos invités, on vous a demandé de nous apporter un son qui vous a marqué. Voici ce que vous avez choisi.
Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance. La scène qui le troubla par sa violence et dont il ne devait comprendre que beaucoup plus tard la signification. Eut lieu sur la grande jetée d'Orly, quelques années avant le début de la Troisième Guerre mondiale.
Identification de cet extrait et la raison pour laquelle vous l'avez choisi, Féminard.
Alors, c'est la voix de Jean Negroni dans La Jetée, de Chris Merker. Je l'ai choisi parce que je pense que c'est peut-être, ne serait-ce que dans la minute du début de ce film incroyable, de ce photoroman, c'est tout y est, le drame, l'envie de survivre, l'amour, parce qu'après il raconte en effet c'est le regard d'une femme et cet enfant qui voit peut-être sa propre mort. Et c'est cette boucle finalement de regarder sa propre vie à cet endroit-là. Donc c'est peut-être pour moi une projection sans arrêt. Quand je revois ce film, je l'ai revu il y a quelques jours, du plus fantasque dans sa forme, il faut imaginer ça, et puis du regard que l'on porte sur l'autre, comme dit en effet Mademoiselle K, moi aussi je passe mon temps à regarder les autres et puis j'essaie de savoir finalement comment ils vont s'en sortir, à quel endroit on s'en sort, qu'est-ce qui fait qu'on continue, est-ce qu'on peut s'arrêter, et si on s'arrête, pourquoi, est-ce qu'il y a quelque chose qui va faire qu'on s'arrête.
Le rendez-vous, 10h, la session.
Très étrange, Palais de Tokyo, pas du tout, plutôt studio...
On est dans le studio 108, dans la Maison Ronde, et on vous écoute, Mademoiselle K, pour finir dans un second titre, Someday, c'est le titre qui clôt votre nouvel album. Vous serez cette fois-ci à la basse et à la voix, bien sûr, Peter Combar est à la guitare et Colin Russell toujours à la batterie. On vous écoute tout de suite.
Someday I'll find out what I'm here for. Somewhere I hate to miss you loudly, miss you badly. The birds fly their way, so my God won't
Merci.
Mademoiselle K en direct dans le studio 108, c'était Someday avec une petite monologue d'un film de Jim Jarmusch en fin de morceau. Quelques dates de concert le 7 mars prochain à Rennes, le 13 à Limoges, le 4 avril à Tremblay. Toutes les dates sont à retrouver sur notre site.
Finalement, je dis souvent, on pourrait jouer presque à la loterie sur ce qu'il y a dans la culotte d'une transsexuelle.
Je me suis toujours assumée dans ce que je faisais, qui j'étais. Et bon, il y a le petit téton qui sort quand même, donc il y a toujours un truc qui déborde aussi.
Quel raccourci. Merci à nos invités. Mademoiselle K, Hunky Dotty Baby est sorti sous votre propre label Cravache. Fiaménard PPP, c'est à partir de demain jusqu'au 14 mars au Théâtre Montfort à Paris et en tournée du 17 mars au 2 avril à Chambéry, Annecy et Brest. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain.
Oh ja, weiß. Du musst auf dich aufpassen, Petra.
Demain, une émission théâtre allemand et roman québécois avec Thierry de Peretti et Larry Tremblay. La désannonce, Elsa, la première ce soir.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Lucille Como, Manu Farine, Aïssa Touendoy et Elsa Béranger. Journal de la culture Zoé Spez, à la prise de son Myriam Guyot et Anthony Thomasson, et à la réalisation Olivier Guérin.
Il est 19h54, vous êtes bien sur France Culture.